Portrait de Capiste, 10e épisode. Ils y sont nés ou ils viennent d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est dans le Cap Sizun qu'ils ont décidé de poser leurs valises. Mylène adore Paris, berceau des Lumières, qu'elle connaît comme sa poche. Passionnée d'art, elle y a passé toute sa vie, écumant les bistrots, cabarets, cinémas et autres lieux de magie et d'échange. Aujourd'hui, elle s'émerveille des paysages du Cap, admirant chaque jour le port d'Audierne qu'elle contemple de sa fenêtre telle une œuvre d'art.
Je m'appelle Mylène Harari. Je suis venue en Bretagne parce que mes deux filles vivent ici. J'ai épousé un Breton, donc en épousant ce Breton, j'ai épousé la Bretagne. Mais je suis parisienne et je suis venue très très tardivement, au moment où j'ai cessé de travailler. Je suis venue dans ce pays. Et je trouve ce pays merveilleux, magique, voilà. Comme je suis une fille de la grande ville, je trouve que la nature est extraordinaire et que les paysages, l'océan que je connais très mal, les nuages, moi je sais pas, c'est magnifique, c'est un pays magnifique. Donc je suis ravie d'être là. Et ça m'empêche pas d'aller à Paris chaque fois que je peux avec tous les événements, mais j'ai adopté ce pays. Et j'habite sur les quais à Audierne, tout près de l'océan. Je suis très contente. Je suis née à Paris, je suis vraiment une fille de Paris, mais mes parents étaient orientaux. Ma mère était gréco-égyptienne, ma grand-mère était grecque. Et mes deux parents sont nés au Caire. Un est né au Caire, mon père, et ma mère est née à Alexandrie. Donc c'est quand même des Égyptiens. Et mon père, qui était connu en Égypte, il était déjà jeune comédien et tout, il connaissait ma mère en Égypte et il s'est marié à Paris, en sabots de bois, juste après la guerre. Le côté de mon père qui est marrant, c'est que dans les films, il fait toujours des trucs de tragédie, de second plan, tout ça. Mais dans la vie, il était d'un comique extraordinaire. Il faisait des imitations, tu mourais, on pleurait de rire. Et je lui ai dit un jour, mais papa, pourquoi tu fais pas des choses comiques? Il m'a dit, ça dure pas le comique. Clément Harari, il a fait peut-être 110 films à peu près. Il jouait dans toutes les nouvelles à la télé de Georges Sand. Tu devais être petite, je sais pas si tu... T'avais la télé chez toi ou pas? Il a joué dans Inspecteur la bavure, tu as vu ça? Il faisait le chirurgien qui opère Depardieu. Il faisait que les croque-mitaines, tu sais, les qui manipulent les cerveaux, les types. Enfin, comme il était typé, on le prenait pour jouer les truands. Il a joué dans Ça va barder avec Eddie Constantine, ça c'est pas ta génération. Il a joué dans Les espions de Clouseau, il était très bon acteur. Non, vraiment, je le dis avec beaucoup de... Il n'y a pas besoin de crâner, mais il avait un talent fou, quoi, c'est tout. Et alors la rigolade à la maison, les imitations... Je l'ai vu raconter des blagues de 6h du soir au lendemain matin avec un de ses copains qui était acteur aussi. Et quand il y avait des choses très très graves dans la vie, tu sais, des maladies, des trucs, il faisait rire tout le monde. Tu sais, quand tout le monde commençait à pleurer, les morts, les machins, il commençait à dire des blagues, tout le monde pleurait de rire. C'était incroyable, mon père. Il ne voulait pas parler ni des maladies, ni des trucs. C'est génial. Tu sais, quand on commençait à parler d'accidents, tais-toi, toi, avec tes accidents. Ne me parle pas. Il aimait trop la vie, mon père. Trop, trop. Et c'est mon père aussi qui m'a donné le goût de la nuit. Parce qu'il rentrait à n'importe quelle heure. Parce qu'attends, moi j'avais l'image de mon père, je voulais faire comme lui. Moi, mon père, je le connaissais. Il arrivait à minuit, 2h du matin, il jouait au théâtre. Il rentrait déguisé, ça c'est génial. Il rentrait en métro déguisé parce qu'il n'avait pas le temps de se défaire. La poudre, les maquillages, donc il avait des grosses boîtes de maquillage. Je me maquillais outrageusement déjà petite. Hein. Je copiais les poudres et les trucs. C'est un homme qui se maquillait, c'était marrant comme tout. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait jusqu'à midi et il repartait jouer la comédie. Et il rentrait le lendemain matin des fois, tu vois, des trucs de fou. Donc j'ai vu mon père, c'était magique pour moi la nuit. La nuit, c'était le rêve, la magie, le mystère. On fait que rigoler, on est dehors. Et quand je me suis mariée, il m'emmenait, il était sympa, il me disait, tu sais, là c'est très bon, allez, je t'emmène, il m'emmenait, il était royal mon père, il m'emmenait dans les restaurants, là c'est bien, et il signait ses contrats de cinéma, de télé, de machin, dans les cafés, donc il connaissait tout Paris par cœur, c'était pour lui, c'était le nirvana, il a passé sa vie à Saint-Germain-des-Prés mon père, il a connu les intellectuels, il a connu tout le monde, quel numéro mon père, donc il fréquentait là-haut, tu vois. Et on n'avait pas tellement d'argent. Hein. Mais il disait toujours, il faut toujours être impeccable. Il était toujours d'une coquetterie maladive. Les costumes, les trucs, attention. Hein. le mouchoir qu'il y avait avec les soquettes, les machins. Ils se faisaient faire des chaussures sur mesure. Enfin, c'était vraiment la haute. Et en Égypte, tu sais, les gens un peu aisés, il y avait le costumier, le couturier qui te faisait, tu t'amenais ton tissu, il te faisait des costards fabuleux. Ça, c'est resté, c'est l'Afrique, c'est l'Orient. Donc mon père, c'était ça, hein, toute sa vie. Et il disait toujours, il faut montrer, quand tu travailles, c'était son visage, c'était sa gueule, comme on dit. Il avait une gueule au cinéma. Il me disait, il faut tout le temps montrer que tu as du fric et que tu. Jamais tu montres que tu es pauvre, hein, jamais de la vie. Hein. Absolument pas. Ma mère, elle était délicieuse. Elle a travaillé à l'UNESCO. Elle s'occupait d'audiovisuel quand même, de cinéma, culture par le film. C'était le début de l'audiovisuel, des machins. Elle faisait tous les grands festivals de cinéma. Elle était invitée par l'UNESCO. Elle allait à Rome, à Venise, elle allait en Tchéco, à Prague. Elle faisait des trucs formidables. Et alors, mon père, entre deux films, il allait manger à l'UNESCO. C'était très bon, manger très bien. C'est une famille spéciale quand même. On était baignés par le cinéma, bien sûr, le théâtre. C'est un homme de théâtre aussi, mon père. Malheureusement, il ne reste pas grand-chose de cette génération de gens. Il y avait pas de, on ne prenait pas en film les pièces, pas beaucoup. Donc il y a très peu, c'est très dommage. Les pièces, il a joué 50 ans au théâtre, il a joué à la radio, à la télé, partout. Donc on a quand même des choses de lui. Mais les choses très très importantes et formidables, on les a pas, pas vraiment. Mais c'était remarquable, voilà. Je me rappelle que mes parents ne savaient pas trop quoi faire des filles. Tu vois, c'est bizarre. C'était une génération. Il fallait aller au boulot et puis on savait pas trop quoi, tu vois. Et mes dons naturels, ils n'ont pas été vus, quoi, tu vois. Il y a une espèce de machisme comme ça. Mais enfin, j'ai bien vécu, je ne regrette pas. J'ai cette frustration en moi, mais à la limite, c'est pas grave. Enfin bon, c'est grave, j'aurais dû faire carrière, mais bon, voilà. Peut-être qu'il m'a préservée. Peut-être que. J'étais secrétaire dans un lycée, moi, secrétaire du proviseur. Ça n'a rien à voir avec mes goûts artistiques, etc. Mais mon père avait peur pour moi. Tu sais, mon père, c'était un acteur. Au début, c'est dur, tu sais, quand tu es acteur. À l'époque, c'était des parias, les acteurs. Et il voulait pas que ses enfants fassent comme lui. Il avait très, très peur. Surtout la fille. Alors là, il m'a fait peur et je suis devenue fonctionnaire. C'est-à-dire l'inverse de ce que j'aurais dû être. Et donc, dans ma vie de tous les jours, je mettais cet amour de l'art que je n'avais pas. Parce que tout le monde me disait au lycée, mais qu'est-ce que tu fais là? Va au théâtre. T'as rien à faire ici, va-t'en. Et moi, je suis restée, j'ai fait ma carrière comme secrétaire. Mais en même temps, j'avais une vie douce, tu vois, parce que mes horaires, bon, j'avais les vacances pour mes enfants. Tu vois, j'ai eu une vie tout à fait harmonieuse, douce et marrante. J'ai fait tous les quartiers. J'ai fait tous les quartiers parce que je suis née vers le. Dans les quartiers chics. Je suis née vers le parc Monceau. Avec mes parents qui vivaient là. Après, ils sont partis un peu en banlieue, mais je suis revenue après sur Paris. J'ose te dire qu'à chaque amoureux, je changeais d'arrondissement. Donc, j'ai fait plein d'arrondissements. Enfin, j'ai habité dans plein d'endroits. Je connais Paris par cœur. C'est ma ville. Et cette ville extraordinaire, qu'est-ce qu'ils en ont fait là? C'est pas possible. C'est une ville fabuleuse. C'était le bonheur sur la terre. C'est la liberté totale. J'avais une vie de rêve, non, franchement. Tous les 2 jours, j'étais ou au cinéma ou au théâtre le soir. Et je me levais à 6 h le matin. Il fallait que je sois à 9 h au lycée. Mais enfin, il me fallait 2 heures pour me maquiller. Enfin bon, tu vois. Donc, je traînais. Il me fallait beaucoup de temps le matin pour. Mais j'ai eu une vie dorée. En fait, j'avais une vie dorée, hein, franchement. Pas beaucoup, pas tellement d'argent. Je sortais à 5 h 30, 6 h. Jusqu'à 9 h du soir, c'était les copains, les rendez-vous, les discussions, les trucs, les petites bouffes et tout. Et à minuit, on allait encore manger en sortant du spectacle. Donc je rentrais à n'importe quoi. Voilà. Une vie de patachon géniale. En plus, je prenais le dernier métro, 1 h du matin. J'avais peur de rien. On risquait rien du tout. Tu sais, on te dit, on risque. À l'époque, je risquais rien du tout. Passer ma vie à sortir le soir, les derniers bus. Rentrer à 4 h le matin dans les boîtes de. Enfin, j'ai tout fait. Quand j'allais à mon boulot. Quand je passais sur le pont Marie, c'est tout près de mon boulot, c'est près de l'île Saint-Louis, c'est Notre-Dame de Paris. Je passais à pied et je disais bonjour Hugo, parce que Notre-Dame de Paris, c'était Les Misérables. Moi, je suis habitée par la poésie. Donc Hugo, c'est Paris, c'est la ville de lumière, c'est la défense des exilés, c'est le vote des femmes, c'est l'Europe. Attends, mais Hugo, c'était un phare. C'est le phare de l'humanité, cet homme. Donc tu vois, j'étais habitée par les textes et tout ça. Et puis moi, mon père récitait Racine. Faut savoir que mon père connaissait tout par cœur. Et dans le petit appartement où on était, J'étais bébé comme ça, il récitait Racine par cœur. Tu vois, il faisait les 100 pas. C'est inoubliable. Toi, c'est... Voilà, donc j'étais complètement imbibée de la langue, de la belle langue, de la littérature. Je lisais tous les livres en cachette, j'avais pas le droit. Il y a des trucs que j'avais pas le droit. Je lisais la nuit, tu vois. Je dévorais les bouquins. J'ai lu tous les bouquins de l'âge de, je sais pas, de 11 ans jusqu'à mon mariage, jusqu'à 20 ans. J'ai fait que lire, lire, lire. J'avais volé l'argent de la cantine pour lire des livres. Je m'étais fait virer d'une école. J'avais volé l'argent de la cantine pour aller acheter des livres. Tu vois où j'en étais? J'étais toute petite. Hein. Je suis habitée par ça. Alors maintenant que je suis, ce qu'on peut dire, une femme mûre, ça m'aide. Ça m'aide à vivre. C'est passionnant. Je m'ennuie pas une minute.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Quand je me suis mariée avec ce Breton qui m'a fait deux enfants magnifiques, on allait au cinéma tous les soirs en sortant. Moi, j'étais jeune étudiante quand il m'a rencontrée. Lui, c'était un ancien marin d'ici, de la marine marchande. Et il a commencé à faire de la politique. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il était magnifique, il était flamboyant. Et on allait au cinéma tous les soirs. À Paris, tous les soirs, j'ai vu des films et des films et des films. Au Quartier Latin, il y avait des films. J'ai vu tous les films qui existaient à l'époque. C'était une manière d'être. Hein. Tu veux dire, on sortait, on s'engueulait sur le trottoir. Oui, non, il n'a pas été assez révolutionnaire. Non, ça va pas. Non, mais alors la rigolade, la bouffe, on allait bouffer dans les restos. Ça coûtait pas très cher. Et avec le peu d'argent qu'on avait, on vivait comme des pachas, en fait. C'est ça. Tu sais que moi, avec mon mari, qui était un homme assez extraordinaire, on était 15 à table pendant des dizaines d'années. Moi, j'ai vécu 15 ans avec lui, on était 10, 12 à table tout le temps. Il campait chez moi, et pas de son, on bouffait ensemble, on dormait, on partait en vacances ensemble, on ne se quittait pas. Ça, c'est la politique, on ne se quittait pas. On avait les mêmes idées, on parlait de littérature, on parlait... C'était merveilleux. Ah non, non, j'ai des souvenirs. Il a fait beaucoup de politique, puis après, il a été viré de chez les trotskistes. Moi, j'étais déjà plus avec lui, hein, j'ai divorcé. Il a eu plein de métiers. Il est devenu documentaliste dans un lycée. Il a terminé documentaliste à 40 ans, il a passé le concours. C'est un type très brillant, il s'est fait tout seul. Il est né dans les bidonvilles de Brest. Alors, pour échapper à la misère, comme sa mère était veuve avec des enfants et tout ça, il a fait la marine. Donc à 15 ans, il a fait la marine. Quand j'ai rencontré, il avait 30 ans. Tu vois, moi, j'ai rencontré beaucoup plus tard. Donc, il m'a raconté sa vie, évidemment. Il s'est fait tout seul. C'est un homme qui s'est fait tout seul. Il avait 4-5 métiers différents dans les mains. Il savait tout faire. Enfin, c'est un homme cultivé. C'est une culture. C'est ça qui m'a... C'est comme moi, mon père était... C'est un acteur. Je suis tombée amoureuse de mon mari. Pourquoi? Parce que c'était un tribun. Et quand il parlait, j'étais... Non, alors moi j'avais un problème avec les... Je tombais amoureuse immédiatement. Le type il vient vers moi, il me fait... On m'a raconté que tu savais taper à la machine. Tu sais pas, à peine je faisais comme ça, tu vois, je savais pas trop. J'étais soi-disant jeune dactylo. J'ai un tract à te faire taper, tu viens, ça a commencé comme ça. Après, on a commencé à flirter, puis après, on s'est mariés. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il paraît que tu tapes à la machine, c'est ça son truc. On était très révolutionnaires dans les années 80, comme ça. Enfin, avant la campagne de Mitterrand, on était très gauchos, quoi. Les grands révoltés, je vivais avec un homme. Mélenchon venait à Paris, chez moi, vivre, parce qu'il n'habitait pas ici. Tu vois, il était déjà je dirais pas un apparatchik, mais il dirigeait un peu les étudiants, les jeunes gens de l'époque, là-bas, dans le Jura. Hein. Alors moi, je ne l'ai pas connu là, mais je l'ai connu au moment où il a commencé à s'installer, à venir à Paris, quoi. Il militait déjà, et lui, il nous a entraînés dans le Parti Socialiste. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Puis après, moi, j'ai divergé, c'est-à-dire qu'après, j'avais plus les mêmes idées. Donc je l'ai quitté, enfin j'ai quitté politiquement, c'est-à-dire que tu vois, je suis restée des années à être dans son groupe, etc. Puis à un moment donné, plus il est monté, si tu veux, plus on est resté amis, hein, mais j'avais plus envie de continuer. Parce qu'avec lui, si tu veux, où t'étais derrière lui, hein, et tu suivais comme un seul, parce qu'il était tout à fait charmant et compétent et tout ce que tu veux, mais il y avait une espèce d'appartenance, tu vois, t'étais un peu quand même... Et mon amoureux et moi, on voulait pas dépendre. Tu vois, donc on s'est mis un peu comme ça, sur le côté. Mais c'était passionnant, passionnant. En plus, c'est un homme très lettré, fabuleux comme ami, on a fait que rire. Enfin, c'était assez formidable. J'avais que des amis comme ça, c'était extraordinaire. Non, c'est une période riche, hein, très très riche. Alors on traînait dans les cafés, dans les restaurants, on était tout le temps dehors. Toutes les nuits dehors, moi j'adore ça. Toutes les nuits dehors. Mais ma génération faisait, quoi. Et alors, mes copains sont tous devenus... Alors, ils étaient complètement à gauche, puis maintenant, ils sont au pouvoir, là. Ils sont au pouvoir. Tellement je vois mes anciens copains, il y a une déception, tu vois, parce que j'ai connu des moments merveilleux de croyance, de rêve, d'une autre société, d'un autre monde, et ça s'est retourné contre nous, en fait. Donc, si tu veux, bon, j'ai envie de vivre autre chose. Tu vois, j'aime l'art. Maintenant, je suis dans l'art, dans tous les artistes. Le reste ne me convient plus, quoi, tu vois. Je ne veux plus m'investir. Je ne veux plus. Parce que ça a duré des années, hein, quand même. Mais alors, c'était flamboyant. Tu vois, c'est ça qui est remarquable. D'abord, on riait comme des fous. Ils faisaient des imitations. Enfin, on s'est trop amusé. On s'est trop amusé. C'est-à-dire, en même temps, on militait, tu vois. Mais la nuit, on faisait des réunionnites aiguës jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On votait pour le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on fait? Quel tract on distribue devant les usines? On fait quoi? On va voir qui? On vote pour oui, pour non. C'était remarquable. On lisait des livres. Oui, t'es d'accord? Non, t'es pas d'accord? On a discuté avec les gens de gauche. On était fâchés, on n'était pas fâchés. Tu vois, c'était une espèce de bouillonnement intellectuel. D'abord, c'était tous des gauchos à moitié trotskistes. Hein, du côté de Lambert, parce qu'il y avait Krivine et Lambert. Moi, je suis du côté de Lambert, c'était les pires. Les plus sectaires, c'était nous. Quand j'étais chez les trotskistes, on voulait que les ouvriers, les étudiants et les paysans soient ensemble pour un monde différent, tu vois. Qu'il y ait un monde différent, ouvert, plus fraternel, plus voilà, avec des droits, avec les femmes qui devaient reprendre leur vie. Tu vois, on s'est battu pour que les femmes soient libres. Tu vois, quand même, hein. Moi, je ne descends plus dans la rue parce que maintenant, ils éborgnent les gens. Et ça n'existait pas à mon époque. Hein. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que les manifestations auxquelles j'ai participé très longuement et très longtemps, tous les mouvements qui existaient, j'étais toujours dehors. Hein. Il y avait un service d'ordre d'abord très, très, très sérieux. Les gens ne faisaient pas n'importe quoi. Il n'y avait pas de gens terrorisants. La police ne nous intéressait pas. Nous, c'était changer de société. C'était pas la police. Ce qui va pas, c'est que tu peux pas ouvrir la bouche. Là, si tu l'ouvres, tu es condamné. Hein. C'est ça qui va pas. Il faut que le pays tout entier arrête d'accepter une situation insupportable. On n'a jamais vu ça. Même pendant la guerre, j'ai jamais vu. Tu sais que pendant la guerre, moi, j'ai vu des films. Tout était ouvert. Les nazis allaient dans les cafés, dans les restos, dans les concerts. Je trouve qu'on va dans le mur, ils font une politique épouvantable et que c'est l'atteinte aux libertés fondamentales. C'est l'obscurantisme et c'est pas possible qu'on accepte ça, quoi. Mon point de vue, c'est celui-là, par contre. on va vraiment, c'est une société de liberticide, quoi. Et puis quand ils entrent dans notre vie pour nous dire ce qu'on doit faire, c'est pas supportable. Il faudrait que le pays réagisse ensemble, ce qui est un peu en train de se passer. Et je les ai vus aux Invalides, là, la semaine dernière. Ils sont venus, il y avait les restaurants, il y avait tout le monde, mélangé avec des paysans, avec des marins de Bretagne, avec des artistes, avec tous ceux qui étaient... Ça, c'est... Moi, dans ma tête, c'est le début d'un truc... Je ne sais pas s'ils vont pouvoir empêcher le pays tout entier de s'unir. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de solution. C'est celle-là la solution. C'est l'unité. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas être seul. Il faut être en groupe et puis il faut résister ensemble. C'est absolument impensable.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois du forme tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des poings effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Le cinéma, c'est aussi la vie, hein, comme disait Truffaut. C'est la vie. Le cinéma, c'est la vie. C'est la vie en plus, quoi. Regarde-moi mon père qui n'est plus là. Quand je le vois au cinéma, il vit pour moi. C'est formidable. Maintenant, chaque petite jeune comme toi, elles pourront toujours voir les gens qu'elles aiment, etc. Ça n'existait pas. Tu vois, tu n'avais pas de souvenirs. Tu avais les souvenirs de photos, quand même, remarquables. Mais là, ils vivent devant toi alors qu'ils ne sont plus là. C'est extraordinaire. Et la voix humaine, j'adore. J'adore, parce que tu vois, par exemple, Yves Montand, la voix de Montand, quand je l'entends, elle me chavire encore. C'est-à-dire que l'homme n'est plus là, et cette voix merveilleuse, tu vois. Ça, c'est unique. J'étais avec des amis qui étaient plus âgés que moi, et qui suivaient toujours les chanteurs à texte. Donc, ils m'emmenaient avec eux. Et moi, j'étais adolescente, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de Ferré, beaucoup. Et il chantait des trucs extraordinaires. Alors, il était très engagé. Alors, il était très anarchiste. Hein. Je trouvais ça extraordinaire. Il avait une chemise noire, comme ça, avec le drapeau noir. C'était incroyable. Et alors, il chantait « Vive la grève, abat la télévision », enfin, tu vois, des trucs. Mais les textes étaient fameux, fameux, fameux. Ah non, 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 mais lui, il est très, très fort sur les textes, attention. Hein. Je connais tout par cœur, moi. Et alors, il a révolutionné la jeunesse. Parce que... on était habités par ces chansons. Ben, on était complètement imbibés, quoi. Si tu veux, on était déjà un peu anards, comme ça. Et le fait d'aller voir des gens comme ça, ça véhiculait, si tu veux, la langue française, la révolte aussi contre l'oppression. Parce que Ferré, c'était l'oppression, hein, tu vois. Et alors, il était contre le fascisme, il était anti-fascisme, contre Franco, il était contre la guerre, et contre faire la guerre, tu vois. Et il était pour les femmes quand il disait... Et les nanas, où allez-vous? On va vous mettre la corde au cou. Elle est fantastique, cette chanson. Et les frangines, les nanas, ce qu'on appelle les filles, dames de la haute et vous, celles d'en bas, vous êtes la même famille. C'est formidable, c'était extra. Avant la chanson, c'était extra, c'était extra. C'est un homme extraordinaire quand même, hein. Il était complètement à part, ce mec-là. Non, mais c'est une période bénie, vraiment, où tout était en... Je sais pas comment, comme un florilège, quoi, comme un épanouissement vibratoire. C'était vraiment la folie, quoi. C'était d'un enthousiasme, d'une passion folle. C'était des nuits folles. C'était ou la politique complètement dingue, ou on sortait toutes les nuits, ou... Tu vois. Et donc, j'ai connu Madeleine Ferré, la première femme, pas celle avec qui il a fini sa vie. Elle était la femme d'un trotskiste, d'un type magnifique qui s'appelait Raoul, dans notre parti trotskiste, qui est un espèce de séducteur, il était magnifique. Et il était insupportable, c'est le vrai révolutionnaire lui. Madeleine a rencontré Ferré dans un café et elle lui a dit « J'en ai ras le bol de ce type, il me bouffe ma vie, j'en ai marre. » Et alors ça a été le grand amour, ça a commencé comme ça. Quand Brassens est mort, j'ai été complètement bouleversée. Et j'ai ouvert Libération et il y avait écrit « Brassens est mort ». J'étais au boulot, je dis « c'est pas possible ». Et c'était Pâques, les vacances. On est parti tout de suite avec l'homme du Jura avec qui je vivais. Et on est parti sur la tombe toute fraîche de Brassens. Et on s'est trompé de cimetière, ça c'est une anecdote. On est arrivé à 7 et on est allé sur la tombe de Paul Valéry. On s'est trompé chez les riches, tu sais. Et alors, chose extraordinaire, il y avait un orage. Moi, je connaissais la chanson par cœur de Brassens, l'orage. On arrive dans le cimetière des pauvres où Brassens est enterré. Et il n'y avait même pas encore la tombe. Et on cherchait la tombe partout. Il y avait plein de gens sous un orage formidable. Et on se réunissait, tu sais, dans les allées, comme ça, on dit « Mais c'est où ? Mais c'est où, Brassens ?» C'est inoubliable, ça. On aurait dit que tous les cieux étaient contre nous, tu vois, pour le trouver.
Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux. À regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps. Auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
J'avais un côté très soumis, hein. C'est que je suis d'une génération, les femmes étaient soumises. Moi, quand j'ai aimé mon mari, j'étais soumise, hein. C'était le dieu sur la terre, c'était là après. J'ai changé. Après, je suis devenue indépendante. Mais si tu veux, j'étais complètement dominée. Les hommes me dominaient. J'étais la femme enfant, en fait. Ça m'arrangeait. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été protégée. Les hommes qui m'ont aimée, ils me protégeaient. Mais j'avais un métier. J'avais un salaire et un métier. Donc, j'étais libre. Mais quand même. À deux, c'est pas pareil que quand t'es seule. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour devenir complètement... capable d'être toute seule pour faire les choses. Un homme que j'aimais beaucoup m'a quittée, et vraiment je l'aimais beaucoup, un Bordelais, et j'ai eu vraiment le... Tu sais, je commençais à avoir quand même la quarantaine et tout, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver là? C'est pas possible, ma vie est finie, tu vois? Et là, j'ai pris ma vie en main, là. Là, j'ai commencé, j'étais en deuil, mais j'avais mes deux filles, mais elles étaient déjà grandes, elles commençaient à faire la fac, les trucs, puis elles habitaient parfois avec leur père, parfois avec moi. Tu vois, j'étais assez libre. Et là, j'ai commencé à prendre ma vie en main, à être autonome, à prendre un appartement seul. Et ça y est, après, c'était fini. Après, j'ai appris, quoi. En une année, j'ai appris. Mais j'étais quand même pas du tout ce que tu vois là. Hein. Pas du tout, absolument. Qu'est-ce que j'ai beaucoup changé. Ma vie était folle, c'est-à-dire que j'étais folle dans le bonheur d'être passionnée, tout ça, mais ma vie a été quand même complètement dense, quoi. Donc, si je te raconte les trucs, c'est... j'écris des livres, hein. Je peux pas me définir, j'aime l'art, c'est tout. Je n'ai pas de définition. La liberté, vive l'art, vive les artistes. Vive la liberté des femmes. Et que le bonheur vienne sur la terre, parce que là, c'est pas possible. Ah ben non, c'est impossible à supporter, franchement c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Tu vas voir chez moi, j'ai une grande table de 15 mètres, j'attends que les copains viennent, il n'y a rien, alors je bouffe des patates, j'ai rien à foutre. Il y a une table de 15 mètres, j'adore, j'attends qu'ils arrivent là. Il y a 20 ans de ça, tu ne me voyais pas ici. Ah non, moi c'est mes enfants qui m'ont demandé de venir, parce que j'allais encore vivre les dernières années, j'allais rester à Paris, il n'était pas de question que je vienne ici. Non, mais je suis contente maintenant, parce qu'il y a une douceur de vivre ici. Et puis, c'est pas ça, c'est magiquement beau. C'est la beauté absolue des paysages. C'est la nature que je ne connais pas, en fait. Parce que alors moi, c'était là, tu sais, la grande cité, le ciel, tu dis, ah bon, il fait gris, mais bon, il y avait des immeubles, quoi. J'étais tout le temps dans des métros, des machins. Je ne m'en rendais même pas compte. Tu sais, quand tu es dans la grande vie, tu ne te rends absolument pas compte. Ici, c'est tout à fait... C'est une autre vie qui n'a rien à voir. Mais il y a une douceur. Mais moi aussi, j'ai... Qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas les mêmes envies non plus. La vérité, je suis en autarcie complète. J'ai l'impression d'être dans un château fort, de dominer. C'est ça qui est merveilleux. J'ai l'impression d'être dans une œuvre d'or permanente. C'est-à-dire que j'ouvre les fenêtres, les nuages sont sur moi. Tu sais, oh, la tempête, je vois ça comme ça. Après, je vois... C'est des œuvres d'art. Je vois le port avec les bateaux qui arrivent, c'est fantastique. Les premières nuits, quand j'ai loué ici, je loue, hein, je me levais la nuit pour admirer. J'ai dit, mais c'est que pour moi, c'est pas possible, j'y crois pas. C'est pas possible que ça soit que pour moi. Tu vois ? Non, c'est magie. J'ai trouvé l'endroit où je me sens en magie. Non, mais vraiment, vraiment. Hein. Donc j'ai l'impression d'être dans un château, d'être la châtelaine, tu vois, et d'avoir mes bouquins, mes films, mes chats, mes copains. La littérature, les disques, le cinéma, la musique, l'art. Eh, hey, tu vas me mettre la musique ou quoi ?
Ouais, carrément.
Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale. Dans ses cheveux blancs, nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime.
LucieArdouin.com